France Culture. Bienvenue à tous, il est 8h. Le journal Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le projet de Theresa May sur le Brexit va probablement tuer un accord commercial avec les États-Unis. Phrase choc ce matin de Donald Trump dans un tabloïd britannique. Alors qu'il est toujours à Londres pour négocier avec la première ministre britannique, que faut-il en penser? Quelle stratégie maintenant pour Theresa May? Nous rejoindrons notre envoyé spécial dans un instant.
Nous nous pencherons dans cette édition aussi sur le plan antiterrorisme du gouvernement. Il le dévoile aujourd'hui et doit donner plus de pouvoir à la Direction générale de la sécurité intérieure.
Que se passe-t-il en Syrie en ce moment? Deraa est désormais un ancien bastion des rebelles. Le régime de Bachar el-Assad y a planté son drapeau.
Nous irons également en Espagne dans votre journal, Clara Lecoq-Réal, où l'indépendantiste Carles Puigdemont pourrait arriver dans les jours qui viennent. L'Allemagne a donné son feu vert pour une extradition.
Et puis à deux jours d'une finale du mondial de football, pourquoi les médias évoquent-ils si souvent 1998? Faut-il forcément tirer le fil de l'histoire? Question posée à la sémiologue Mariette Darigrand dans un quart d'heure. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus dans le centre de Londres aujourd'hui. Pancartes à la main, ballons gonflables, visibles de tous, ils protesteront contre la venue de Donald Trump dans la capitale britannique. Le président américain qui a fait déjà ce matin grincer des dents en s'en prenant au plan Brexit doux, le plan Brexit soft de la première ministre Theresa May dans une interview au tabloïd The Sun. Interview filmée, écoutez plutôt.
S'ils font un tel accord, nous traiterons avec l'Union européenne au lieu de traiter avec le Royaume-Uni. Si les Britanniques font ça, cela mettrait probablement fin à une relation commerciale majeure avec les États-Unis.
Un coup fatal porté à un possible accord commercial, dit encore Donald Trump. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour.
Vous êtes à Londres pour Radio France. Vous suivez la visite de Donald Trump à Londres. Et peut-on déjà parler d'un échec pour Theresa May qui, rappelons-le, espérait conclure un accord commercial avec les Américains?
C'est un vrai camouflet pour Theresa May qui essaie de pousser son accord renforcé avec Donald Trump. Sauf que l'enregistrement du tabloïd Le Sun montre bien que le président américain n'a pas l'intention de changer d'avis aussi facilement. Elle n'a pas suivi mes conseils, dit-il. Il lie donc son accord à celui que Theresa May prépare pour sortir de l'Union européenne. Autant signer avec l'Union, dit-il, si cet accord reste trop proche, cela tuera probablement notre propre accord. Les mots sont tranchants, comme d'habitude, sans porte de sortie très diplomatique, même si Washington a tenté ce matin de temporiser un peu. Donald Trump valorise aussi son ami Boris Johnson. Il fera un excellent Premier ministre, dit-il, lui qui vient de démissionner du gouvernement de Theresa May pour désaccord sur le Brexit. L'interview du Sun a été enregistrée avant la très prestigieuse soirée à Blenheim Palace, où pourtant Donald Trump et Theresa May avaient, semble-t-il, retrouvé un peu de sérénité.
Alors cela ressemble bien à un échec personnel pour Theresa May, qui n'avait pas ménagé ses efforts ces derniers temps pour arracher un accord, vantant hier encore la relation si particulière entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, Mathilde.
Oui, car Theresa May a un besoin vital de cet accord pour rééquilibrer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle ne semblait pas au courant hier lors de son discours des propos à venir de Donald Trump dans le Sun. Ou bien a-t-elle préféré passer par-dessus les relations de personnes pour se préoccuper du sort de ces deux pays? C'était en tout cas le cœur de son discours hier. Theresa May a beaucoup insisté sur les atouts de son économie. Nous sommes le plus important investisseur aux États-Unis, mais aussi sur la dépendance des Américains aux Britanniques. Le retrouvailles ce matin à l'Académie royale militaire puis à Chequers, la résidence des premiers ministres risque donc d'être un peu glaciale.
Merci Mathilde Dehimy avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Ambiance d'autant plus glaciale que, je vous le disais, d'importantes manifestations anti-Trump sont prévues aujourd'hui à Londres. Une DGSI musclée et un parquet national antiterroriste. Voici en substance le nouveau plan d'action contre le terrorisme en France, présenté ce matin par le gouvernement, 5 mois après l'annonce d'un plan de prévention de la radicalisation. Là, il s'agit donc de lutter contre le terrorisme, 4e plan en 4 ans. Pour en dévoiler les contours, le Premier ministre Édouard Philippe convoque la presse ce matin hors de Matignon. Et c'est loin d'être un détail, Camille Magnard.
Rendez-vous est donné à Levallois, au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et rien que ça nous confirme que cette DGSI va jouer un rôle central dans la nouvelle organisation de la sécurité antiterroriste. Car c'est tout l'organigramme des services de sécurité français qui va être repensé dans ce plan d'action, avec donc la DGSI, qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, comme plateforme de coordination des différents acteurs. Et ils sont nombreux. Il y a le SCRT, le Service Central de Renseignement sur le Terrorisme. Il y a la gendarmerie, la police judiciaire, les renseignements intérieurs, à Paris et sur tout le territoire. En fait, un véritable millefeuille au sein duquel les informations ont encore parfois du mal à circuler. En remettant la DGSI au cœur du dispositif, l'Élysée et Matignon espèrent obtenir plus de rapidité d'action et plus d'efficacité dans la détection des menaces terroristes avant qu'elles ne se réalisent. Car le plan d'action présenté ce matin devrait être celui d'une nouvelle phase dans le risque terroriste en France. Celle d'une menace qui vient désormais plus de l'intérieur que de l'extérieur, avec la défaite de Daesh en Syrie et en Irak et le retour de centaines de ses anciens soldats en France. Le précédent plan, lancé par Édouard Philippe en février, présentait 60 mesures pour prévenir la radicalisation. Cette fois, il s'agira plutôt de perfectionner les moyens de gérer ceux qui ont déjà été happés par la propagande djihadiste. Le ministère de la Justice estimait récemment à 450 le nombre de détenus radicalisés qui auront purgé leur peine de prison d'ici la fin de l'année.
Un plan pour éviter, pour lutter contre les attaques de plus en plus prévisibles, attaques terroristes justement, et à l'aube d'un week-end de fêtes et de possibles tensions entre le bal des pompiers ce soir, le 14 juillet demain, et la finale de la Coupe du Monde de football après-demain dimanche. Les services de sécurité sont par ailleurs mobilisés, 12 000 membres des forces de l'ordre au total en France ce week-end et plus de 3 000 secouristes. Un comportement violent et inadmissible, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a décidé de suspendre un policier stagiaire avant même la fin de l'enquête de l'IGPN, la police des polices. Ce policier avait été filmé en train de frapper un détenu filmé par les caméras dans le nouveau palais de justice de Paris. Vidéo qui a fait le tour du net dans la journée d'hier.
8h07 sur France Culture, la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal, avec ce symbole, le drapeau syrien qui flotte ce matin sur des rats au sud-ouest de la Syrie.
Elle était considérée, cette ville, comme le berceau de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad. Ses troupes ont donc repris la ville hier et c'est un nouveau revers pour la rébellion qui enchaîne défaite sur défaite, Valérie Crovin.
Il a fallu 3 semaines de bombardements intenses pour contraindre les derniers rebelles encore présents à Dera à capituler. Cette ville de 100 000 habitants était divisée entre des quartiers contrôlés par le régime d'un côté et les combattants de l'armée syrienne libre de l'autre. Mais l'étau se resserrait de jour en jour. Depuis le 9 juillet, l'armée syrienne encerclait totalement la ville, ne leur laissant aucune alternative, si ce n'est d'accepter un accord négocié par les alliés russes du régime syrien. Selon cet accord, les combattants anti-Assad devront déposer leurs armes, en échange de quoi ils pourront se rendre avec leurs familles dans les zones du nord de la Syrie tenues par l'opposition, notamment à Idlib. Des bus seront affrétés pour acheminer les rebelles en dehors de la ville. Située à proximité de la frontière jordanienne, Deraa fut le théâtre des premiers pas de la révolution syrienne en mars 2011. C'est l'arrestation de 15 enfants qui écrivaient sur des murs des slogan hostile au régime qui a mis le feu aux poudres et déclenché les premières manifestations contre le régime. Deraa reprise, l'armée syrienne va désormais pouvoir se concentrer sur son nouvel objectif, la province voisine de Kounetra, limitrophe du plateau du Golan, occupée par Israël. Une région hautement sensible. Avant-hier, l'armée israélienne a répliqué à l'incursion d'un drone syrien qui effectuait une mission de reconnaissance.
Des violences encore au Nicaragua. 5 personnes sont mortes au moins hier, dont 4 policiers, lors d'une grande journée de manifestation contre le pouvoir, contre le président Daniel Ortega. Le nombre de victimes s'élève à près de 270 morts en 3 mois. Aujourd'hui, une grève générale est prévue par les opposants au président un peu partout dans le pays. Il dit vouloir continuer de se battre, mais la perspective d'une extradition se rapproche pour Carles Puigdemont. L'ancien président catalan, retenu en Allemagne depuis mars, pourrait être remis à Madrid. En tout cas, la justice allemande a donné son accord hier, même si l'indépendantiste ne sera pas poursuivi pour rébellion, comme le souhaitait l'Espagne, mais pour malversation financière à cause de l'organisation et du financement du référendum illégal en Catalogne. Tout pourrait maintenant aller très vite, Sébastien Berriot.
Après l'aval des juges, le parquet général allemand devrait rapidement mettre en œuvre l'extradition. L'ancien président catalan, qui avait fui secrètement vers la Belgique l'année dernière pour ne pas être incarcéré, ne devrait cette fois pas éviter la case de prison dès son retour en Espagne. C'est une victoire pour la justice espagnole, qui a tout fait pour obtenir ce résultat, mais une victoire qui n'est pas totale. En effet, ce que voulaient les magistrats espagnols, c'est juger Carles Puigdemont pour rébellion, un délit passible de 30 ans de prison. Mais la justice allemande n'a pas retenu ce motif dans le mandat d'extradition, se contentant d'évoquer les faits de détournement de fonds publics lors de l'organisation du référendum, passible seulement, si on peut dire, de 12 ans de prison. Ça veut dire que Carles Puigdemont, contrairement aux autres responsables indépendantistes, ne pourra pas être jugé pour rébellion, une situation qui vient contrarier les plans de la justice espagnole qui souhaite organiser un procès global à l'automne. Tout va dépendre maintenant de l'attitude du nouveau chef du gouvernement espagnol. Pour le moment, Pedro Sanchez continue de dire que tous les responsables catalans incarcérés doivent être jugés par des tribunaux espagnols. Seul signe d'apaisement à ce stade de la part de Madrid, les anciens ministres et leaders catalans ont tous été transférés dans des prisons basées en Catalogne.
C'était il y a un an tout juste, le prix Nobel de la paix chinois Liu Xiaobo mourait en détention d'un cancer du foie, le gouvernement chinois refusant de le laisser partir pour qu'il soit soigné en Allemagne. Quelques jours seulement après la libération de sa femme, c'est donc aujourd'hui un anniversaire sensible qui se prépare en Chine, Dominique André.
Les célébrations sont discrètes car elles sont interdites. Une photo d'une chaise vide symbolisant la remise du prix Nobel de la paix en 2010 à Liu Xiaobo, absent à Oslo car en prison. Une bougie, voilà ce que les réseaux sociaux diffusent. Le gouvernement chinois veut éviter tout hommage aux célèbres dissidents en éloignant ceux qui voudraient se recueillir au bord de la mer où ont été dispersées les cendres de Liu Xiaobo. Rujia, un éminent dissident, a été obligé de quitter Pékin. La police l'a emmené quelques jours à la montagne, loin de la province du Liaoning. Rujia nous a accordé une interview avant de partir. Il nous dit ce que représente Liu Xiaobo.
Bien qu'il ne soit pas le seul à avoir rédigé la charte 08 en faveur de la démocratie, il en est le principal organisateur et porte-parole. C'est pour cette raison qu'il est celui qui a le plus payé. Les sanctions les plus lourdes ont été contre lui. Il a payé très cher car il y a laissé sa vie. Il nous a donné une leçon de courage qui pour moi signifie « J'ai peur, mais je vais toujours avancer, même si je perds ma vie, ce n'est pas moi qui suis coupable. Ce qu'il a fait est pacifique, généreux. Il a milité pour le changement de la Chine dans la paix. Il a donné de l'espoir à beaucoup de gens. »
Aujourd'hui, Rujia allumera une bougie et mettra une fleur devant la photo de Liu Xiaobo. Je penserai à lui calmement, confie l'opposant.
De la Chine à la Russie, cartographie des nouvelles dissidences. C'est d'ailleurs le thème des matins de l'été sur France Culture,
oui,
Olivier.
Avec la sinologue Marie Holzmann et le philosophe Michel Elchaninov, auteur des nouveaux dissidents, que nous retrouverons après ce journal dans 5 bonnes minutes, mais aussi dans la dernière partie des matins. Retour sur une icône de la dissidence, une figure, Nelson Mandela, il aurait eu 100 ans ce mois-ci, avec l'historien Fabrice Dalméda. Avant cela, Clara, la suite de l'actualité de ce vendredi matin, les députés suppriment le mot « race » de la Constitution.
Il s'agit du premier changement notable dans le projet de révision constitutionnelle actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Et la nouvelle mouture de l'article 1 stipule désormais que la France assure l'égalité devant la loi à tous les citoyens, sans distinction de sexe, ça c'est une nouveauté, sans distinction d'origine ou de religion. Point. C'est un chiffre scruté tous les ans, le voilà qui tombe à l'instant. Le taux de réussite au baccalauréat pour l'année 2018, après rattrapage donc, il est de 88,3%, en hausse de 0,4 points par rapport à l'an dernier, bac général et technologique confondus. Jusqu'à la fin, la finale de la Coupe du Monde de football dimanche entre la France et la Croatie, la fin de ce mondial donc. Nous vous proposons d'écouter les voix de France Culture à propos de cet événement. L'écrivaine Leïla Slimani hier et ce matin la sémiologue Mariette Darigrand qui remarque cette tendance qu'ont les supporters, les journalistes aussi, à toujours comparer l'événement à un autre, à toujours regarder en arrière en 98.
98, 20 ans après, on est un peu en train de compter, parce que 20 ans, c'est une génération. Et donc, il me semble qu'on a un esprit un petit peu mathématique en ce moment. Et les sociétés ont aussi des chiffres inconscients. Et il me semble que c'est ça qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes dans les civilisations, dans les sociétés. Donc là, ce serait une sorte de nouvelle vague, de réédition de quelque chose. C'est important que ça ressemble à ce qui s'est passé en 98. Et on sait très bien que l'histoire, même si elle ne repasse pas les plats, a droit à plusieurs essais. On n'est pas au rugby, mais on est foot. Mais là, en tout cas, on a eu quelque chose qui a été amorcé et ensuite qui n'a pas été développé. Et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait une deuxième chance. Et là, elle pourra être développée. Il me semble que l'attente porte là-dessus.
Voilà pour l'analyse de la sémiologue Mariette Darigrand, interrogée par Lucas Caltritti. Et à l'aube de ce week-end festif, pour les uns sportifs, pour les autres ou les deux, voici les prévisions météo. Encore des nuages sur le nord, un risque d'orage sur les Pyrénées, mais un grand soleil partout ailleurs et des températures douces, voire chaudes. Ce matin, il fait 19 à Cherbourg, 23 à Nantes, Paris, Besançon, 25 à Bordeaux, Limoges, 29 degrés près de la Méditerranée.
Merci pour ce rayon de soleil, Clara Lecoq-Réal. On vous retrouve à 9h pour un prochain journal.